On s'y attendait avec tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, les résidences pour personnes âgées, le nombre de décès liés à la COVID qu'on retrouve dans ces résidences par rapport à la population en général. Ce matin, je faisais un décompte, plus de 90% des décès provient donc de ces résidences. On s'en attendait, puis aussi avec l'expérience de Erin notamment, on s'attendait donc à ce que des enquêtes, toutes sortes d'enquêtes puissent être lancées, des réflexions sur le sort qu'on réserve à nos gens les plus vulnérables qui vont terminer leur séjour dans ces centres. Eh bien, hier, on apprenait que la coroner en chef annonçait la tenue d'une enquête publique sur ce qui s'est passé dans ces centres. C'est important ici de noter que le mot public est haïtien, là. On a quelque chose d'assez particulier qui va se passer en lien avec l'enquête du coroner. Et pour en parler, c'est avec grand plaisir que je l'accueille. Elle est coroner en chef du Québec. Maître Pascale Descaries est mon invité. Maître Descaries, bonjour.
Bonjour, Monsieur Cholette.
Merci d'être là. Maître Descaries, vous avez annoncé, vous avez ordonné une enquête publique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, il faut savoir que la loi sur la recherche des causes et circonstances des décès, qui est la loi qui nous régit, les coronaires, prévoit deux moyens d'intervention pour mener à bien notre mission, qui est la recherche des causes et circonstances des décès. Le premier moyen, c'est celui qui est normalement utilisé une grande proportion de cas, c'est l'investigation. Il s'agit d'un coroner qui investigue un décès en particulier. C'est un processus privé et confidentiel jusqu'à ce que le rapport ultimement soit complété et qu'il soit public. L'enquête publique, c'est notre deuxième moyen d'intervention. Il est utilisé moins fréquemment, mais il est très important et il est utile quand on veut élargir un peu la réflexion et le débat et s'attarder à une problématique plus large de type systémique. Alors, il s'agit d'un coroner. Dans ce cas-ci, ça sera deux coronaires, Mme Jeanne Kamel, avocate, et Dr Jacques Ramsey, médecin, qui vont présider cette enquête, co-présider. Le fait que ce soit public, c'est ça le grand élément central là, dans cette démarche, du début jusqu'à la fin. On recueille la preuve de manière publique, on auditionne des témoins, les citoyens peuvent se présenter dans les salles d'audience et assister aux audiences, les journalistes également. Tout est ouvert, transparent, et à l'issue du processus, bien entendu, le rapport qui va ressortir de ça va être également public.
OK.
Donc, c'est là toute l'importance de cette enquête publique, là. Contrairement à toutes les autres enquêtes qui ont été annoncées jusqu'à présent, c'est la seule qui a ce caractère public, là, du début à la fin.
OK. Bon, j'ai beaucoup de questions en lien avec ça. On va commencer avec peut-être une question de perspective. La dernière fois que vous avez mené une enquête publique, c'est sur quelle situation?
Il y en a une en cours qui est de grande envergure aussi. C'est une enquête publique de nature aussi systémique sur la question du suicide au Québec. Problématique super importante qui a débuté, mais qui n'est pas complétée. Ça, c'est le dernier exemple
OK.
en lice. On a aussi une autre enquête en cours qui est le décès de M. Pierre Coriolan, qui est décédé sous les balles d'un policier. Enquête publique importante également qui fait intervenir beaucoup d'acteurs du milieu policier notamment.
OK. Est-ce que, dans l'imaginaire des gens, là, est-ce que l'enquête publique, dans le cas précis ici, là, en lien avec les résidences personnes âgées et la COVID, est-ce que cette enquête, ça pourrait être le parallèle ou l'équivalent de ce que les gens se rappellent, la commission Charbonneau?
Peut-être on peut faire un certain parallèle en ce sens-là. La différence majeure, c'est que le bureau du coroner, il est complètement indépendant du gouvernement. Donc, c'est le bureau du coroner, c'est moi-même en l'occurrence, coroner en chef, qui, de ma propre initiative, a ordonné cette enquête-là.
Oui.
Et on a une complète indépendance par rapport au gouvernement. Ce n'est pas un mandat qui nous est confié par le gouvernement.
D'accord.
C'est on s'est auto
D'accord.
donné ce mandat. Voilà.
Mais dans le quotidien de l'enquête, ça pourrait être l'équivalent. On pourrait voir ça à la télé, vous allez avoir des témoins, etc.
Normalement, ce n'est pas des enquêtes qui sont télévisées. Ça n'a jamais été le cas. La loi prévoit d'ailleurs que ce n'est pas. C'est un peu les mêmes règles que devant un tribunal lors des procès. Il n'y a pas
Ah.
d'images qui peuvent être prises lors des audiences. Par contre, il y a des images qui peuvent être prises avant, dans la salle d'audience, avant que ça débute. Après, on peut prendre des images, là, de faire des interviews et tout ça, mais c'est pas filmé, c'est pas télédiffusé.
OK. Est-ce que vous avez des pouvoirs de contrainte?
Oui, absolument. Le coroner qui préside l'enquête peut envoyer des subpoénas à un témoin qui manifeste certaines résistances à venir témoigner devant lui. Mm-hmm. Il y a aussi la possibilité de décréter un outrage au tribunal si la personne ne respecte pas ce subpoénat ou ne se conforme pas aux demandes du coroner.
Est-ce que, par exemple, un cas de figure, vous pourriez, les coronaires au dossier, les coprésidents pourraient contraindre, par exemple, Marguerite Blais à témoigner?
Absolument, oui. Le coroner est libre de sa preuve, complètement maître de sa preuve, en toute indépendance, comme je vous le mentionnais tout à l'heure.
Oui.
Donc, il peut amener à la barre n'importe quelle personne qu'il juge utile d'entendre pour l'éclairer sur les causes et circonstances des décès, mais aussi sur des pistes de recommandations possibles l'issue du processus.
Est-ce qu'on peut parler de l'étendue du mandat? Parce que là, des décès en CHSLD, il y en a plusieurs, malheureusement.
Oui.
Pas tous reliés à la COVID. Ça va être quoi l'étendue du mandat? Est-ce que c'est très, très large? Est-ce que c'est très serré? Expliquez-moi ça.
Oui, bien, comme vous le savez, vous l'avez mentionné d'entrée de jeu, il y a eu énormément de décès au Québec, principalement dans ces milieux de vie pour personnes âgées, personnes vulnérables. C'est sûr que c'est préoccupant. Comme citoyenne, ça m'a préoccupée, comme coroner en chef aussi. Et je me suis dit qu'on devait utiliser ce levier, ce mécanisme d'intervention qu'on a pour faire la lumière là-dessus. C'est sûr qu'on n'investiguera pas, qu'on n'enquêtera pas la totalité des décès survenus en résidence pour aînés. Là. Ça serait beaucoup trop colossal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir, vous l'avez mentionné aussi, des dossiers, des décès qui sont survenus à la résidence Heron de Dorval. Ça va être la base première là, de notre enquête. On va s'attarder à chacun de ces décès-là. Il y en a une cinquantaine à ce jour. On va par la suite, les coroners vont cibler certains décès qui se sont produits dans des contextes de négligence, dans différentes ressources, différents types de ressources d'hébergement et dans différentes régions du Québec. Ils vont faire un échantillonnage qui est bien représentatif de la situation qu'on a vécue partout en province et dans différents types de milieux, parce que chacun de ces milieux-là, selon le type de résidence, est géré et réglé par différentes structures ou différentes réglementations. Donc, ouais. Ça va être important de couvrir largement ce qui s'est passé. Maintenant, au niveau du nombre de décès qui seront ciblés, j'ai pas le nombre. C'est sûr, pardonnez-moi, c'est sûr que c'est une enquête d'envergure, mais on n'enquêtera pas des milliers de décès, là, c'est sûr et certain, on ne peut pas se permettre ça. De toute façon, ça serait pas nécessairement utile. On va avoir un portrait représentatif des cas types qui vont nous amener à pouvoir poser des constats et formuler des recommandations pour ultimement protéger la vie humaine, éviter que des décès semblables se produisent dans le futur dans des contextes similaires.
Parce que c'est ça la finalité, c'est l'avantage ou la plus-value de votre travail comme coroner, ça sera de faire des recommandations. On peut pas s'attendre au sortir du rapport là que ça serve par exemple à des poursuites criminelles.
Le coroner n'a jamais, c'est bien prévu dans sa loi, n'a pas du tout dans son mandat d'établir des responsabilités, qu'elles soient criminelles ou civiles, n'a pas de blâme à distribuer. Le coroner fait des constats à partir de faits, en dresse le portrait et à partir de ça analyse des pistes de solutions et formule des recommandations à des acteurs clés, des intervenants clés qui pourront faire changer les choses. Donc le coroner, c'est pas à lui de se prononcer, de juger de quoi que ce soit. Il établit des faits et il recommande. Par la suite, le rapport a une vie, il va être entre les mains de différentes personnes, de familles peut-être, qui, elles, pourront, à partir des constats qui auront été faits, décider de l'opportunité de faire valoir des droits. Ça, c'est certain. C'est un des rôles du coroner, c'est ça, de favoriser l'exercice des droits par des familles endeuillées, par exemple.
Je comprends bien. Peut-être en termes de mécanique, est-ce que ça sera, donc, vous me parliez, enquête publique, est-ce que ça sera une tournée du Québec? Allez-vous visiter physiquement les régions, les centres? Est-ce que les coroners vont se déplacer dans les centres, par exemple, les CHSLD, où il y a eu beaucoup de décès. Puis, on parle de combien de temps? Est-ce qu'on parle de l'enquête qui va d'une enquête qui va durer une année, un peu moins, un peu plus?
Oui, c'est sûr que c'est une enquête à large portée, puisqu'on veut viser largement là, plusieurs milieux, plusieurs régions. Alors, dans ce sens-là, oui, les coroners vont être appelés à se déplacer, assurément. pour aller faire des constats en personne dans les lieux visés, dans les aux endroits où les événements se sont produits. D'ailleurs, quand on investigue ou qu'on enquête sur des décès, normalement, l'enquête publique se tient dans la région administrative où le décès est survenu. Donc, on va, dans ce cas-ci, se déplacer et tenir des audiences dans différentes régions pour tenir compte de la réalité régionale.
Parfait. Et on parle de combien de temps? On pense pouvoir émettre ou produire le rapport pour quand?
C'est difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de travail préparatoire à faire par nos deux coronaires et leur équipe. Il va falloir qu'ils préparent bien, qu'ils ciblent bien, qu'ils choisissent les cas les plus représentatifs et qu'ils déterminent le nombre de décès qu'ils vont enquêter. On estime en équipe là, que probablement en début d'année 2021, on serait prêt à débuter des audiences. Et c'est certain que ça va s'échelonner sur quelques mois. On espère pouvoir compléter le tout à l'intérieur d'une année, de l'année 2021, par exemple, pour une production de rapport à la fin de l'année 2021. On le souhaite, mais on n'est pas à l'abri de toutes sortes d'aléas, donc je ne peux pas m'engager à ce moment-ci. Mais on veut mener les activités rondement avec célérité parce que la population a besoin de réponses. On ne veut pas faire traîner les choses.
Bien sûr. Très bien. Bien, merci beaucoup d'avoir éclairé nos lanternes et d'avoir participé à l'émission. Merci, Maître Descaries.
Ça me fait plaisir.
Merci. Au revoir. Alors, Maître Pascal Descaries, coroner en chef du Québec.